Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Brunet, aujourd'hui accompagné de Marceau Truffaut, et vous écoutez un nouvel épisode de Sans Titre. Sans Titre est né de l'envie de partager la vie réelle des créateurs et des créatrices. Pour cela, Marceau et moi rencontrons des artistes et leur demandons simplement de raconter ce métier, avec ses réalités et ses défis, loin du romantisme que l'on peut s'en faire. Notre objectif ici est de vous donner une meilleure compréhension de la vie d'artiste, de ce qui se cache derrière une œuvre d'art, mettre en avant la condition des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Sans Titre est visible en live sur twitch.tv/thibaubrunet et disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Aujourd'hui, nous recevons Anna Darabi. Bonne écoute.
Tu es artiste photographe aujourd'hui installé à Paris. Tu as étudié à la Faculté des Beaux-Arts de Téhéran, puis à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Ton pays d'origine est un sujet important dans la plupart de tes travaux. Ton travail s'inscrit largement dans le champ du paysage urbain qui va te servir de toile de fond pour faire apparaître des situations politiques, économiques et sociales des différents territoires que tu photographies. Tes séries photographiques interagissent souvent avec d'autres matériaux comme du texte, des images d'archives ou des objets. Et enfin, le livre occupe une place privilégiée dans ton travail. Et tu es collectionné dans plusieurs institutions publiques privées.
C'est voilà. Parfait.
Est-ce que tu veux peut-être compléter ou préciser certaines choses?
C'est une biographie assez récente, donc je suis contente avec ça. Je reste avec ça.
Est-ce que, pour commencer un peu notre entretien, est-ce que tu peux revenir sur ta formation? Quelle place ça a finalement dans ton travail aujourd'hui? Comment ça s'est passé, la sortie des études? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que sur tes premiers jours d'artiste tout jeune, toute sortie, toute diplômée, comment ça se passe la formation? Qu'est-ce que tu en as retiré?
Et j'ajouterais aussi quelque chose, puisque tu as fait les Beaux-Arts à Téhéran et ensuite et l'université à Paris 8. J'enseigne à Paris 8, donc je vois à peu près ce que ça peut donner. voilà. Peut-être que aussi, tu peux nous parler aussi de peut-être ce changement-là. Enfin, voilà.
Oui, en fait, je vais faire deux parties. Le moment que je suis entrée à Paris 8 et le moment que je suis sortie de Paris 8. Donc, j'ai fait Beaux-Arts de Téhéran, qui est un peu comme de l'Université de Téhéran, qui est un peu comme des Beaux-Arts, peut-être ici. Il est équipé, il y a des équipements pour travailler en argentique, il y a des équipements pour développer ton travail en studio. Et voilà, donc, c'est vraiment un endroit où on pratique l'art, mais aussi il y en a des formations théoriques plus modestes. Et puis, j'ai choisi Paris 8 pour deux raisons. D'abord, l'histoire de Paris 8 en tant qu'université militant et toutes ces histoires de l'université libre, ça m'a fasciné beaucoup. Ça m'a fait un rêve, un peu une imagerie de cette université. Et puis, je sentais la nécessité d'avoir une formation plus intense en théorie. Et donc, j'ai pensé que bon, voilà, l'université, c'est très bien. En plus, il y avait un département de photographie qui est unique parce qu'il n'y a pas d'autres universités avec des départements de photographie. Et donc, du coup, quand je suis rentrée à Paris 8, c'était un peu le choc, parce que ce n'était pas du tout le Paris 8 que j'ai rêvé, que c'était très politique, et voilà, avec les têtes penseurs quand même de philosophie française. Bien sûr, il y en a beaucoup de gens intéressants qui enseignent encore à Paris 8, je pense que c'est très riche. Après, il y a au niveau de mixité culturelle, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai rencontré des gens qui venaient de cultures et de pays différents. Mm-hmm. Alors qu'Iran, c'est un pays qui reçoit pas beaucoup de c'est pas un pays très mixte. Donc ça, pour moi, c'était fascinant quand même. Après, en sortant de Paris 8, alors ça, c'était pas facile parce que on nous prépare pas vraiment. Pas pour l'univers l'art contemporain, la scène d'art contemporain, ni pour marché, ni pour travail professionnel. Il y a quand même, il y a des gens qui te donnent des, si tu es assez curieux, tu vas trouver des moyens à comprendre, mais moi, ce n'était pas mon cas. Je n'étais pas suffisamment curieux. Donc, quand je suis sortie, j'ai beaucoup, on peut dire, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés parce que je pensais qu'on peut aller tout simplement rencontrer des galeristes et rentrer dans une galerie, ou on peut tout simplement publier un livre et ça suffit que le travail, si le travail est bon, forcément, il y aura un public. Et ouais. Après, voilà, j'ai compris que ça ne marche pas
et
du tout comme ça.
Et que c'était un peu plus compliqué, ça.
Un peu, mais pas vraiment, pas beaucoup.
Mais justement, comment ça s'est passé au début? C'était galère, certes, mais...
Alors, cet intérêt pour livre, justement, c'est ça. C'est que moi, je n'avais pas de réseau. Je ne connaissais pas suffisamment du monde. Donc, j'ai un peu laissé mon réseau qui était en Iran derrière. Je voudrais plus investir dans la scène forcément de Moyen-Orient ou la scène iranienne parce que je trouvais ça limité avec des attentes très particulières. Qui était pas, pour moi, c'était pas suffisant. Donc, du coup, on nous a demandé à faire une maquette de livre pour le travail de mémoire, quoi, à l'époque, j'ai fait. Donc, je suis allée, en fait, j'ai une idée de maquette, livre d'artiste que j'ai fait, quelque chose vraiment très mal fait avec le col, l'odeur était infernale. Donc, je suis allée chez Laurel Parker, qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît comme, voilà, elle est pour son travail magnifique. Et à l'époque, elle était moine occupée, donc elle avait le temps à dire à un petit artiste comme moi comment on fait ce livre que j'ai imaginé à faire et qu'on n'utilisait certainement pas le col que moi j'ai utilisé. Donc, j'ai appris ça et que finalement, j'ai fait 30 exemplaires de ce livre parce que je pouvais quand même à l'époque, elle restait très chère pour moi. Donc, généreusement, elle m'a appris un petit peu le métier, juste pour mon livre à moi. Et donc, j'ai fait 30 exemplaires de ce livre en question. Et donc, je l'ai présenté pendant Paris Photo. Il y avait un salon d'indépendants qui s'appelait Books and Coffee à l'époque. J'ai juste fait 10 exemplaires et les 10, ils sont vendus. Et c'est c'était pour moi, c'était très encourageant. Ouais. Voilà. Et après, le livre a voyagé. C'est arrivé au Japon. Et moi, j'ai dit, c'est super. C'est un moyen à diffuser mon travail. Moi, qui n'ai pas de galerie, qui ne connaît personne. Après, il y en a quelqu'un, une dame, Esther Kaiser, qui écrivait sur les livres photos. Tout d'un coup, a choisi ce livre comme des meilleurs livres de 2010. Et j'ai dit, je ne suis pas devenue connue mondialement, notamment ne deviens pas connue mondialement avec livre d'artiste de 30 exemplaires, mais c'était quand même, j'ai eu l'impression que j'existe maintenant.
Ok.
C'est joliment dit. C'est joliment dit.
Moi, j'ai peut-être juste une question, si tu peux revenir, entre l'enseignement artistique à Téhéran et l'enseignement artistique en France. Très, très simplement, dans l'approche du geste de création, quelles seraient les grandes différences comment tu as ressenti les deux approches?
Oui, ça c'est intéressant parce que alors ce qu'on apprend déjà en histoire de la photographie en Iran, c'est très anglo-saxon, notamment c'est très américain. Donc, on apprend l'histoire de la photographie plutôt de cette manière. Et malgré qu'il y a la censure et que plein de trucs n'arrivent pas, mais les professeurs à l'époque, ils voyageaient beaucoup en Europe et ailleurs. Donc, ils amenaient les livres, mais comme en fait, deuxième langue le plus courant après farsi, c'est anglais. Donc, les références sont des références anglophones. Donc, l'histoire de la photographie que j'ai appris en Iran, c'était anglophone, anglo-saxonne et américaine. Et donc, justement, premier cours de l'histoire de la photographie que j'ai fait en France, c'était assez marrant parce que j'ai appris quoi. Alors, il y a tout un univers. Bon, on apprend sur l'école de Düsseldorf, ces grandes lignes, mais franchement, pour être honnête, je ne connaissais pas du tout la scène photographique française. Et à part de Niépce, c'est Jean Ratier, et voilà, c'est des grandes figures de l'invention de photographie 19e, mais sur contemporaine, je ne connaissais pas grand-chose. Donc ça, c'était une grande différence, et j'ai compris que voilà, c'est... Et après aussi... Par exemple, aujourd'hui, je peux dire ce que je fais comme photographie de paysage urbain, c'est largement inspiré justement par New Topography. C'est parce que ma formation, en fait, m'a un peu dirigé vers cette direction. Et donc, je peux dire que ça a quand même formé mon regard de cette façon-là. Alors que, voilà, France, je vois que c'est vraiment la photographie. Je crois que la photographie française, c'est largement différent de ce qui se passe, par exemple, même aujourd'hui aux États-Unis. C'est très... je ne veux pas dire qu'il y en a des styles fixes. Et je ne veux pas du tout même rentrer dans les... Je n'aime pas de dire photographie française. Parce que peut-être il faut dire photographie en France, parce que ce n'est pas la peine de faire un label nationaliste. Ça, c'est vraiment c'est un terrain très glissant à parler comme ça. Mais c'est quand même la photographie en France, c'est différent que la photographie aux États-Unis. Et donc, Iran aussi, Iran, c'est un pays hybride, parce que c'est un pays qui est nourri. D'abord, la photographie est arrivée très, très tôt. Mais au niveau culturel, c'est nourri par plein de cultures européennes, mais aussi américaines, dans le 20e notamment. Donc, toutes ces influences, ça crée autre chose aussi. Oui, finalement, je trouve qu'il y a une différence. Pour moi, c'était flagrant quand même.
Ok. Vas-y.
Est-ce que tu peux nous parler dans ton travail un petit peu de ton processus créatif? On voudrait savoir plus précisément comment tu commences un projet et comment ça se passe. C'est-à-dire, est-ce que tu es guidé par un désir formel ou est-ce que c'est avant tout une problématique, une thématique qui t'intéresse? Comment le projet se construit? Et après, comment tu avances avec ton point de départ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour toi créer? Comment tu mets les Legos ensemble?
Je pense que c'est les deux. Des fois, je commence par la forme. Par exemple, il y a un territoire qui m'intéresse et je commence à le photographier. Après, je commence à conceptualiser autour les photos, la forme qui est produite. Des fois, c'est plus récemment, et je pense que c'est quelque chose peut-être plus actualité pour moi à cette période de ma vie artistique, c'est que c'est plus, je commence par un problématique et par un concept et je commence après de créer des choses qui sont en lien avec ça. Mais quand j'étais plus jeune, ça commençait plutôt par la forme et donc à chaque fois, c'est... De toute façon, les deux, je pense que ça avance dans une étape de travail, ça avance ensemble. Ça veut dire que on crée certaines formes et les formes exigent d'aller vers certaines idées. Et des fois, c'est l'idée qui... on voit que la forme, c'est absent. Donc, par exemple, le travail qu'on montre ici à la Louisiane, on a fait plusieurs étapes. On a fait d'abord le paysage urbain et après, on a trouvé que, comme c'était en lien avec les années berlinoises de David Bowie et qu'il était très fasciné par Erich Heckel, le peintre, et aussi le portrait, on a pensé que c'est indispensable, il faut ajouter un volet portrait. Donc, on est retourné à Berlin pour faire le volet portrait.
D'accord.
Donc, je dirais
les deux. Il y a des allers-retours comme ça tout le temps, entre une partie un peu plus conceptuelle, théorique, et une partie formelle, les deux se nourrissent et tu avances comme ça.
Oui, tout à fait.
Comment les sujets arrivent?
Les sujets,
par exemple, on va sur un territoire, on le prend en photo, mais pourquoi vous allez sur ce territoire-là? Est-ce que vous arrivez quand même avec un peu une intention ou c'est vraiment le fil de l'eau qui t'amène sur le...
Normalement, c'est des territoires qui sont quand même liés à des imaginaires qui viennent de culture, littérature, la musique, ou voilà, des choses comme ça que tu as envie de découvrir. Et tu y vas là-bas et que voilà, peut-être il y a par exemple... encore dans ce projet qu'on montre ici, c'est Berlin. On est allé à Berlin, je suis allée à Berlin avec mon imaginaire de Berlin. Mais après, je me suis trouvée dans ce quartier Neukölln, qui est un quartier assez moche. Donc, en fait, c'est pas le beau Berlin. Mais j'ai découvert, en fait, on a découvert d'autres qualités de ce quartier, finalement, qui a donné lieu à ce projet. Donc, c'est... Mais aussi, des fois, c'est par nécessité, en fait, d'autres choses. Par exemple, quand j'ai photographié Téhéran, c'est parce que c'est une ville que j'ai vécu longtemps dedans. Mais quand je vivais dedans, j'avais zéro intérêt à l'investir. Mais la distance, en fait, m'a permis d'avoir un regard plus objectif, malgré que ça reste un projet très, très subjectif. Mais voilà, c'est...
D'ailleurs, c'est peut-être le moment de faire une petite parenthèse, mais depuis tout à l'heure, tu dis nous, nous, nous. Effectivement, vous étiez deux invités à la base, parce que le travail que tu présentes ici, dans Photo Saint-Germain, et le travail que tu as fait à Berlin et que tu as continué, tu le fais en binôme avec ton binôme qui s'appelle Benoît Grimbert, c'est ça?
C'est ça, oui, il est absent, mais oui, c'est vrai que j'ai un peu automatiquement comme...
Oui, non, mais c'est important parce que là, en fait, c'est un travail que vous faites en duo. Et justement, ça m'amène un peu à la question, tout ton travail depuis que vous êtes un duo, tout ce que vous le faites en duo?
Non, pas du tout. On a travaillé sur d'autres projets seulement en duo. Ah, le projet de Berlin et sur une commande de Grand Paris qu'on a fait aussi ensemble. Mais on a chacun la pratique individuelle, mais de temps en temps, on collabore.
D'accord. OK. OK. Est-ce que tu peux, justement, peut-être, c'est à ce moment-là qu'on peut... On peut poser la question du mentor ou
du regard extérieur.
Du regard extérieur. Il faut arrêter de dire mentor d'ailleurs. Mais effectivement, est-ce que tu as un regard extérieur Est-ce que tu prends un regard extérieur sur ton travail? Comment ça se passe?
Est-ce que c'est important d'avoir une figure qui t'accompagne, qui puisse un peu poser une critique que tu vas particulièrement écouter, suivre, etc. Ou est-ce qu'au contraire, tu es plus à l'aise à laisser ça vraiment à distance et avancer en faisant confiance, et peut-être aussi parler de la relation avec Benoît, du coup, en fonctionnant ensemble, est-ce que c'est un travail vraiment construit à quatre mains, ou il y a des échanges tout le temps, de l'un regarde les avancées de l'autre, et il y a une... Comment un peu ça, tu décortiquerais tout ça?
Ok, maintenant je comprends c'est quoi le regard extérieur. Donc oui, j'en ai des regards, pas un, mais des regards extérieurs, des gens qui font un peu pour moi, qui sont importants dans le sens que j'aimerais bien avoir leurs avis, pas sur seulement les photographies, mais des fois en échangeant avec eux sur un concept pour avancer. Sur le travail duo, donc on a travaillé, en fait, phase photographique, on a travaillé chacun de notre côté. Après, c'est la phase de montage et de sélection des photos qu'il y a beaucoup d'échanges. On met tout sur la table et à ce moment-là, on discute pourquoi on garde ça et pourquoi on supprime d'autres. Et ouais, donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut préciser autre chose?
Non, est-ce que tu as un ou une galeriste?
Je n'ai pas de galeriste, non. J'ai...
Ou peut-être de commissaire qui te suit dans ton parcours et qui justement... T'accompagne sur ton travail?
Non, je n'ai pas vraiment quelqu'un que je peux, par exemple, contacter pour dire est-ce que je peux te montrer ce travail à cette étape? Est-ce que tu peux me donner des avis? J'ai des commissaires avec qui j'essaye de en fait prendre, je veux dire, les voir une fois que le travail est fini, mais jamais dans la phase... Quand ce n'est pas fini, non, dans la phase de construction, je n'ai pas créé une relation comme ça. Non.
D'accord.
Sinon, qui pose, à qui tu demandes un peu ce regard-là? Donc, des commissaires que tu connais, mais c'est aussi des amis. C'est aussi à qui tu demandes un peu ce retour-là sur ton travail?
Par exemple, quelqu'un que je peux citer. Bon, déjà, Benoît Grimbert, c'est quand même c'est quelqu'un que je respecte son travail artistique. Et donc, du coup, son avis, ça, pour moi, c'est assez important. Donc, ça, c'est quelqu'un que sur le travail photographique, j'utilise beaucoup, en fait, ses conseils. Et puis, là, en ce moment, je suis en thèse de création à Paris 8 avec Catherine Perret. Et avant qu'elle soit mon professeur, en fait, je la connaissais, elle suivait mon travail. Et ça m'arrivait justement de montrer le travail quand ce n'était pas achevé à elle. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'aussi, plus tard, je l'ai choisie comme professeur, en fait, comme directrice de thèse. Ouais.
D'accord.
Peut-être des questions autour de ce qui influence un peu ton travail dans tes différentes influences, d'où Qu'est-ce que tu regardes, ouais. Ouais,
où tu trouves tes inspirations, où tu trouves la nourriture pour ton travail.
Plutôt, je veux dire, à travers d'autres travaux artistiques, mais notamment, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup la musique, mais la musique, c'est abstrait, parce que comment on traduit la musique en images, mais je pense que c'est quand même, ça fait un effet, mais peut-être c'est très inconscient. Donc, pour des choses qui sont plus le cinéma et le théâtre, oui, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup visuellement. Mais après, je pense que, comme un peu tout le monde, la musique, la littérature, ouais, voilà.
L'air du temps.
Oui, et aussi des fois, et aussi, j'aime plus en plus investir la culture pop. C'est quelque chose maintenant qui m'intéresse, ouais. Récemment avec l'âge, parce qu'avant, je faisais partie de ces snobs qui pensent que la culture pop, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, je trouve que c'est très riche et c'est très intéressant.
Ok.
L'aveu. Bravo, j'étais snob. très bien, très bien. Écoute, merci, merci pour tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter, tu es d'accord, mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule une journée d'atelier pour toi? Déjà, attends.
Est-ce que tu as un atelier?
Oui, j'ai un atelier, oui. Très récemment, mais j'ai un atelier. Ouais.
Que tu partages avec Benoît, justement?
Que je partage avec Benoît, oui.
Et donc, comment se déroule une journée d'atelier pour toi?
Est-ce qu'il y a une routine? Est-ce qu'il y a une journée type? Ou comment ça se passe concrètement, une journée de travail?
Pas vraiment, mais si, il y en a des choses. Je n'ai pas de routine. Je ne suis pas très être routine. Mais oui, ça commence toujours par regarder des emails et répondre à des choses. Et après, il y en a certaines nécessités tout d'un coup qui est tombée pendant la nuit. Donc, du coup, tu dois absolument la réaliser tout de suite. Ouais. Après, s'il n'y a pas des trucs comme
d'urgence,
ça, pas prévu,
de trucs à régler tout de suite.
Voilà, après, je commence à travailler. En fait, parce que le travail que je fais, il y a différentes phases. S'il y a la phase de, par exemple, retouche, ça va être une journée retouche entièrement. Ou scan, ça va être une journée vraiment de post-production comme ça. Mais c'est la photographie. Alors, pour faire des prises de vue, je suis assez, j'ai une bonne discipline. J'ai des horaires que je veux aller parce qu'il y a certaines lumières et tout ça. Et normalement, quand j'ai des prises de vue, je le fais pour, par exemple, un mois défilé, je fais que des prises de vue. Deux semaines que je fais que des prises de vue. Donc, pour ça, je suis bonne. Et souvent, comme je travaille sur les sujets qui sont ailleurs, à l'étranger, donc je dois avoir une certaine discipline. Ouais. Sinon, j'ai fait un voyage qui m'a coûté cher et je n'ai rien gagné.
Il n'est pas sorti grand-chose.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aussi... Mais ça, ce n'est pas atelier par ailleurs. Mais atelier, c'est plutôt post-production. C'est plutôt lire les livres, en fait, pour recherche. Ouais. Plein de choses comme ça.
Le voyage fait un peu partie de cette question d'atelier, effectivement.
Ah oui, où est l'atelier?
Oui, où est l'atelier? Puis, oui, puis finalement, l'atelier, c'est l'endroit où tu crées en tant que photographe. Oui, tu es obligé de voyager.
Oui. Donc la ville est l'atelier aussi.
La ville est l'atelier.
Oui, tout à fait, je suis d'accord.
Tu habites Paris?
Je suis basée à Paris, oui.
Je suis basée à Paris. Ton atelier est à Paris également?
Oui, oui. Je suis chanceuse. Oui, en fait, oui.
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de cette centralisation? C'est important d'être à Paris ou pas?
C'est une bonne question parce que j'ai dit que j'ai mon atelier récemment parce qu'il y a 3 ans que j'ai eu cet atelier qui est de la ville de Paris, donc qui m'a permis de rester justement à Paris. Parce qu'avant, je vivais, travaillais dans un appartement tout petit.
C'est un atelier logement?
C'est un atelier logement. Donc, ça m'a... Qui était à un moment donné, après un certain temps, notamment parce que je ramasse beaucoup d'objets et des choses, c'était impossible à vivre dedans. Donc, si ce n'était pas cette chance, probablement, je devais quitter Paris parce que Paris était beaucoup trop cher pour moi. Et donc... Mais donc, j'ai beaucoup posé cette question. Alors, moi, j'ai un travail alimentaire aussi. Et mon réseau, c'est plutôt basé à Paris et banlieue parisienne. Donc, c'était important pour ça. Mais autrement, au niveau de, par exemple, nourrir culturellement et tout ça, non, absolument pas. C'est pas nécessaire à être à Paris. Mais moi, j'ai galéré vraiment beaucoup à faire un réseau de professionnels et de travail. Et donc, c'est un peu difficile pour moi de laisser tout ouais. et partir ailleurs.
C'est quoi ton travail alimentaire?
Donc, alors, pour longtemps, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Pour longtemps, c'était, je travaillais en fait pour les organismes qui font de l'aménagement urbain et en tant que photographe qui fait des, un peu photo architecture, photo de paysage pour leurs besoins d'archives ou communication. Donc, c'était ça. Et ouais, je pense que c'est mon travail alimentaire, c'est ça. Après, ça m'arrive aussi faire de temps en temps d'autres choses, mais ouais, principalement, c'est ça.
D'accord.
Et alors, comment ça se passe, l'interaction entre ce travail alimentaire, puisque tu dis que c'est aussi de la photographie pour oui. beaucoup, mm-hmm. C'est aussi dans le champ urbain, mm-hmm. donc il y a une certaine similarité dans la forme. Et justement, comment tu négocies entre ce qui appartient à ce champ-là, du travail alimentaire, de ce qui appartient à ton travail justement personnel, enfin artistique, et est-ce qu'il y a une porosité entre les deux? Mmh. Ou est-ce que tu tiens les deux mondes à l'écart? Voilà, comment ça se passe?
Je pense que c'est très séparé dans le sens que, comme en fait, ces commandes, ils viennent avec des demandes très particulières mmh. pour illustrer tel ou tel sujet. Ça ne m'appartient pas vraiment parce que ce n'est pas le concept qui vient dans ma tête. Mmh. Du coup, c'est vrai que... Et aussi que moi, je travaille plutôt en argentique quand je travaille pour moi et quand je travaille en numérique pour les commandes.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a des moments que j'ai osé certaines choses pour le travail alimentaire. Bon, j'ai osé, je veux dire, c'était dans la demande. Et après, j'ai pensé, bon, ça serait bien aussi que je parle une forme. Plutôt que je le fais entrer aussi dans mon travail artistique.
D'accord.
Donc là, il y avait un échange, mais normalement, non, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de concept du tout.
Oui, non, bien sûr, mais bon, dans la pratique et dans la vie, des fois, ça peut se produire. Hein.
Oui, je comprends.
Qu'est-ce que j'allais dire du coup en termes d'économie?
Oui, comment tu produis tes pièces? Il est où ton équilibre financier?
Il y en a pas. Je produis mes pièces avec, en fait, je produis pas des pièces normalement s'il n'y a pas de soutien derrière. C'est que j'ai pas d'endroit à stocker, mais j'ai pas de galerie. J'ai pas d'endroit à stocker mes pièces. Ça, c'est ma première problème. C'est pas forcément que j'aimerais bien mettre d'argent de poche à produire une pièce parce que je veux savoir à quoi ça va ressembler. Mais problème, c'est qu'après, où je vais le mettre? Donc, c'est toujours avec beaucoup d'hésitation et beaucoup de doute. Est-ce que ça, c'est le moment à le faire ou pas?
D'accord.
Et normalement, par exemple, j'avais une exposition à un centre d'art Gonzagal et ils ont produit des pièces. Maintenant, le travail, en fait, c'est en train de tourner. Mais mon grande panique, c'est que le moment que le tournée finit et où je dois mettre le travail. Donc, voilà.
C'est vrai que ça, on n'en a jamais vraiment parlé. Si, on en a un petit peu parlé avec François Bianco, la question du stock.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'à un moment...
C'est un grand...
Il faut pousser les murs, quoi. Ouais. Ouais, ouais.
Parce que, voilà, en dessous de ton lit, il n'y en a pas toujours de place.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Je vais bientôt recevoir un set d'expo là, que je fais, et dedans, il y a trois socles énormes. Et je sais vraiment concrètement pas du tout ce que je vais en faire.
Ouais, c'est bien à entendre que se partager.
Ouais, ouais, non, mais tout le monde...
Je pensais que tout le monde a trouvé une solution.
Tout le monde galère, en fait. C'est toujours pareil là-dessus.
Ouais. Bah, à Paris, on a déjà du mal à trouver un bon logement et un bon atelier. Après, bonjour, un endroit aussi supplémentaire pour...
Je vois très bien. On en est où?
Je pense sur l'idée du réseautage, pardon, de savoir si tu participes à des vernissages, etc. Justement, quand on parlait de Paris, est-ce que c'est important d'être Paris? Tu disais tout ton réseau professionnel, il s'est vite constitué ici autour de Paris. Est-ce que investir du temps à aller voir d'autres expos, à savoir à qui parler, etc., à nourrir ce réseau-là, comment ça se passe? Et est-ce que ça occupe beaucoup de temps, finalement, dans ta vie d'artiste?
Alors ça, c'est aussi une chose que moi, en tant que jeune artiste, je savais que je dois aller au vernissage pour rencontrer des gens et du monde. Mais je n'étais jamais un être très social, pour être honnête. Mm-hmm. C'était pour moi une grande difficulté d'aller vers les gens que je ne connaissais pas. Et aussi, j'ai un peu, il faut dire que je suis un peu devenue timide quand je suis venue en France parce que je ne maîtrisais pas la langue. Et ça m'a... En fait, c'est tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un état d'enfance où mm-hmm. on est timide, on ne peut pas aller parler avec les gens, quoi. Donc, ça m'a un peu pris de temps. Et ça, donc, du coup, je n'ai pas trop investi pour longtemps ça, qui est une question importante, hein, je sais. Mais voilà, c'était très hors de ma zone de confort. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important, oui, pour avoir... c'est encore Paris, en tant que capitale, il y a beaucoup d'événements qui se passent, plus que jamais. Là, maintenant, on est vraiment... en ce moment, c'est vraiment la folie. Oui. Donc... c'est vrai que, bon, après, au début, quand on est jeune, je veux dire, pas connu, c'est aussi un peu difficile. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller vers quelqu'un, bonjour, je suis Blab. Il faut avoir vraiment une sacrée confiance en soi pour convaincre les gens que ça vaut la peine d'investir en toi. Ben, sinon, si tu vas avec genre timidité, oui, mm-hmm. ça ne marche pas du tout. Donc, voilà, pour les jeunes artistes, il faut avoir une confiance en soi démesurée.
C'est sorti il y a combien de temps de ton école?
En fait, j'ai fait master, c'était 2010, donc 12 ans.
12 ans. Ouais. Tu sais, dans chaque promo, il y a un mec, un artiste qui sort et puis qui part tout droit comme une fusée, qui sait exactement à qui aller serrer la main et qui s'en sort bien.
Pas de Paris 8. Hein.
Pas de Paris 8.
Non. Il n'y a pas de fusée en Paris 8. Il n'y a que des pétards, peut-être, mais il n'y a pas de fusée.
Non, ce qui est marrant, moi, j'en vois pas dans ma promo à moi, mais, parce que moi, j'ai fait une petite école de Beaux-Arts, mais je le vois dans l'école que ma femme a fait les rencontres. Elle a fait Arles, l'école d'Arles. Mm-hmm. Et tu vois qu'il y a des espèces de profils qui sortent d'Arles et qui partent tout droit devant, qui savent exactement quel parcours, qui aller voir. Ils sont toujours sur la bonne résidence, sur le bon truc, tu vois.
Mm-hmm. Oui, je peux pas imaginer.
Puis tu les croises à Paris Photo avec évidemment le bon commissaire. Et c'était toujours un peu surprenant parce que tu dis, putain, enfin, comment il fait, comment il sait où il faut aller, enfin, c'est bizarre.
Non, mais c'est un talent. Il faut dire que je suis assez... J'ai confiance en moi-même dans certains... Que j'ai certains talents, mais ça ne fait pas partie de ça. D'accord. Voilà, je n'ai pas de talent d'aller au bon endroit, au bon moment. Et à vrai dire, je n'y crois pas non plus. Ça veut dire que c'est... Des fois, je pense que c'est les réseaux doivent faire sens parce que tout le réseau n'est pas pour tout le monde. Mmh. C'est que... Toutes les galeries n'est pas pour toi.
Évidemment, oui.
Tous les centres, voilà, les éditeurs n'est pas pour toi. Mm-hmm. Et c'est très vrai par rapport des commissaires. Il y en a des commissaires que je pense que c'est des gens qui sont doués à faire certaines choses, mais peut-être ils vont pas forcément connecter avec ton travail. Donc ça prend du temps à trouver vraiment des commissaires qui comprennent ton travail et qui le soutiennent. Et notamment, par exemple, moi, mon travail, c'est un travail quand même qui a besoin d'être expliqué. C'est pas un travail que quand on le voit, la forme telle quelle, ça suffit. Donc du coup, j'ai besoin vraiment des gens qui peuvent parler de ce travail et qui vont tout simplement parler. Voilà. Donc,
Justement, peut-être, vu qu'on est en train de parler d'argent, tu as publié combien de livres?
Donc, j'ai publié j'ai publié un certain nombre de livres de petite édition. Donc,
toujours en édition
Des fois, en fait, trois fois en auto-édition. Après, j'ai collaboré avec un éditeur, Bartleby & Co, qui est basé à Bruxelles, en deux projets qui aussi, il fait des petites éditions, petites économies. Après, j'ai aussi publié deux livres avec des éditeurs pour les tirages plus grands récemment.
Et tu veux nous parler de comment ça se passe Comment ça se passe, la publication d'un livre et comment se passe l'équilibre financier de ce type de publication, ou tu ne le souhaites pas?
Non, il n'y a pas de problème. La publication, c'est très compliqué. C'est aussi... bah, faire un livre, aujourd'hui, plus que jamais, ça coûte très cher. Donc, et les éditeurs, normalement, ils ne sont pas prêts à mettre des économies dedans, sauf si c'est des éditeurs qui sont liés à, déjà liés au culturel, donc ça fait sens. En même temps que les éditeurs, ils ne font pas pousser de l'argent sur les arts. Mais voilà, donc c'est un travail infernal entre trouver de l'argent et... Et après aussi, la collaboration qui est... Quand je trouve que c'est riche, pour moi, c'était toujours très riche. Collaborer, par exemple, avec les graphistes, c'était une très bonne chose et quelque chose de très positif dans mon travail parce que les graphistes, leur regard extérieur, on m'a apporté, en fait, des bonnes choses dans mon travail. Donc, c'est compliqué, mais ça vaut la peine des fois.
Tu vois que ça peut se passer de manière intelligente des fois.
Marceau a été graphiste sur un de mes livres.
Oui, je vois qu'il y a une actualité là-bas.
Il y a quelques années qui s'est passé dans la douleur. Mais ok, et parce que faut savoir aussi que c'est un risque financier.
Tout à fait.
Qui n'est pas pris par l'éditeur. C'est ça aussi. Tu vois, c'est...
En fait, l'artiste, on tombe sur le bon éditeur qui te paye les droits d'auteur, qui n'est pas le cas de pas mal, qui ne le font pas. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est important. En fait, moi, je pense qu'il y en a des... Et je vraiment conseille à des gens qui veulent faire des livres, connaissez vos droits et demandez-les. Je pense que c'est comme ça que ça va changer. Parce que si tout le monde veut faire un livre sans droit d'auteur, juste pour avoir un livre et en plus faire tout le travail d'amener de l'argent, amener de réseaux, amener de... Bah alors, donc, en fait, ça doit être pour moi une collaboration. Éditeur a des compétences que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai des compétences que l'éditeur va nourrir de ça. Donc, du coup, je pense que chaque éditeur va profiter de mon travail. Mais moi, j'aimerais bien aussi la part de... Donc, pour moi, moi, je ne peux pas comprendre que... Je ne veux pas devenir riche. Personne ne va devenir riche en faisant un livre, sauf si on est peut-être... je ne sais pas, j'écris un Harry Potter ou quelque chose comme ça dans ma vie, mais voilà, c'est donc, du coup, je pense que c'est important quand même qu'il y ait un respect, ça, même symboliquement, voilà.
Tout à fait. Il va falloir qu'on avance un petit peu plus vite.
Ouais.
Je me rends compte, il est quelle heure
16,
bon, ok.
Oui. Tu disais finalement les pièces que tu produis, elles sont financées par des résidences, des concours, etc. C'est ça?
C'est financé par plutôt en fait au moment de l'exposition et les endroits qui veulent les exposer, en gros.
D'accord.
Donc la question c'est, est-ce que justement tu fais des dossiers?
Ah, énormément, oui.
Ouais.
Oui, par rapport de journée atelier, il faut ajouter ça. Une partie de la journée atelier, c'est faire des dossiers, demander des aides, demander des résidences, postuler pour les résidences, candidater pour telle ou telle commande. Oui, c'est un job à part. Et franchement, je demande à l'État pour nous payer pour ça, parce que c'est vraiment...
Tu sais que les architectes, ils sont rémunérés pour...
Je sais,
voilà.
Bah donc, c'est pas absurde ce que je dis.
Non, c'est pas du tout absurde, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un cycle de présentation d'un travail? Comment ça se passe? C'est-à-dire de la création à l'exposition? Quelles sont les étapes un petit peu... Si tu as quelque chose à dire sur le sujet, s'il y a des choses intéressantes, après, si...
J'ai très bonne mémoire de la création du jour. C'est un magnifique moment. On est heureux. On pense que nos vies, c'est magnifique et tout ça. Après, moment de trouver quelqu'un qui peut s'intéresser à notre travail, c'est très douloureux parce qu'on rencontre beaucoup de rejets. Et c'est franchement, ce problème de travail artistique, c'est que travail artistique, c'est toi-même. Donc, des fois, quand on te rejette, c'est difficile à ne pas le prendre personnellement. Donc, ça, c'est un moment douloureux quand tu dois être fort et ne pas être découragé. Et voilà. Après, le moment de collaborer avec d'autres gens, c'est aussi, ça peut passer très bien et ça peut passer en fer. Voilà. Et j'ai vécu les deux, en fait.
Donc, ouais. D'accord. Et justement, à ce propos, tu as quelque chose peut-être à nous raconter là-dessus?
Du côté horreur?
Du côté de l'horreur. Peut-être une anti-recommandation à nous faire, un endroit où il ne faut absolument pas aller exposer.
Non, j'ai pas ça. J'ai pas un endroit absolument pas. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui vient avec expérience. C'est que il faut. Mais je veux dire qu'il faut pas se laisser impressionner. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux en tant qu'artiste. Et si c'est important, il faut insister là-dessus parce que c'est toujours. On nous dit. Il y a pas d'argent. Il y a pas de temps. Il y a pas. Et donc il faut dire que quand même il faut pas prendre ça tout de suite au sérieux, il faut savoir qu'il y a toujours un moment à négocier. Mais quand on est jeune, on sait pas, on prend ça au sérieux, on pense que oh là là, il y a pas de temps, il y a pas d'argent, il y a pas ceci, il y a pas cela.
C'est bien de dire ça, c'est bien, c'est vrai. C'est vrai, il y a pas, mais finalement ils sont payés déjà, les centres d'art, ils ont de l'argent, il y en a.
Il y en a que c'est l'histoire, c'est que s'ils s'intéressent à toi, bah, ça veut dire que tu as une valeur, donc il faut connaître. Oui. Voilà.
Moi, j'aurais une question. Tu dis, bon, je passe beaucoup de temps à faire des dossiers, etc. Comment ça se passe? Est-ce que des fois, il y a des boulots que tu vas faire, que tu vas formater, que tu vas charter justement en prévision d'une réponse? Un concours, un dossier, etc. Ou au contraire, est-ce que tu essayes de pirater entre guillemets le concours en disant bah a priori c'est peut-être, je suis peut-être pas tout à fait dans ce qu'ils veulent, mais tant pis, au forceps, je vais faire passer moi mes idées, mes créations et
Non, en fait, si je participe dans un concours, il y a quelque chose qui m'intéresse dedans, sinon je ne participe pas.
D'accord.
Par exemple, quand j'ai fait Commande de Grand Paris, c'était parce que justement c'était un territoire que je voudrais investir. Je pense qu'il y avait notamment parce que je travaillais dans cette histoire de travail alimentaire. Justement, comme je travaillais souvent dans le Grand Paris, mais au titre alimentaire, je voudrais l'investir cette fois au titre personnel et au titre de travail plus en fait conceptuel. Donc oui, non, mais sinon, je ne participe pas.
Tu ne te dis pas si je modifie un peu mon approche, un peu mes créas, j'arriverai à avoir telle résidence ou concours, ça n'arrive pas.
Peut-être c'est arrivé, mais je ne l'ai pas gagné, donc tout court, c'était pas. j'étais même pas convaincant.
Ok, voilà. Ouais. Oui, ça peut arriver.
Des fois, non, il y avait des moments que j'avais besoin de l'argent.
Bah ouais, c'est ça,
pour être honnête, oui, c'était finalement, je ne l'ai pas gagné. J'ai fait un travail vraiment genre vendre de chocolat dans une boutique, mais c'est l'histoire, c'est que c'est. Visiblement, je peux pas. Quand je mange, je ne suis pas très convaincant, quoi. Je ne suis pas un bon menteur. Donc.
Ok, ça merci.
Est-ce que tu fais ton accrochage toi-même? Comment tu builds ton accrochage? Comment ça se passe?
Alors moi je suis pas bricoleuse du tout. Vraiment je suis handicapée, donc j'ai besoin des gens en fait, tout simplement.
D'accord.
J'ai besoin absolument des gens. Et tant d'accrochage en plus, j'ai besoin des une relation réelle, par exemple, avec le lieu que je travaille. J'aimerais bien que j'y vais toujours avec les plans, des trucs machin et tout ça. Mais pour moi, c'est très bienvenu si quelqu'un me dit que, et alors, qu'est-ce qu'on pense si on fait, par exemple, ça? Et si c'est intéressant, c'est très bienvenu parce que c'est très récemment que je fais des expositions monographiques. Avant, c'était l'exposition collective. Je pense que c'est quand même très formaté. On doit respecter l'espace, les autres artistes. Hein? Donc, mais l'exposition monographique, c'est le moment qu'on a vraiment la carte blanche pour expérimenter au maximum comment on va accrocher. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et je suis toujours très curieuse parce que les gens, quand même, les lieux de l'exposition, ils ont déjà expérimenté. Et s'ils m'ont dit, par exemple, pour l'exposition de Lab, on a fait ça et ça me paraît intéressant. Oui, c'est... Donc, je le vis avec beaucoup d'angoisse, mais normalement, ça termine pas mal. Il y a des nuits blanches.
Ok. Et est-ce que tu vends ton travail, tes collectionneurs? Ça rentre dans ton économie, les ventes
de mes œuvres, ça encore très récemment et pas beaucoup de en fait des collections publiques, très peu. Pour des livres, j'en ai des collectionneurs privés qui s'intéressent à des livres artistes ou des livres que je fais, Parce que des fois aussi, par exemple, récemment, j'ai fait un livre plutôt édition courant, mais j'ai fait aussi une édition, un livre limité à côté, et j'ai des collectionneurs qui m'en suivent sur ça. Mais sur des pièces, j'en ai très peu, et plutôt ces collections publiques.
D'accord. On va sur le... On finit ?
Bah oui, je pense, tout à fait.
T'as peut-être un aspect du travail qu'on n'a pas abordé, un truc tu penses que ça qui manque dans ce qu'on a abordé ou on a essayé.
Moi, je pense que c'est juste, je sais pas qui exactement qui est notre public, mais je pense que c'est important que les artistes parlent. Je pense que c'est une bonne idée ce genre d'émission, ouais. Parce que c'est important que les artistes parlent entre eux, parce que sinon des fois, on se sent qu'on est très seul et qu'on n'a pas d'accès à ça et ça, et ça peut être décourageant pour travailler. Alors que là, je pense que c'est important d'échanger des expériences et tout ça.
C'est l'objectif.
C'est l'objectif.
Merci beaucoup.
Ça, c'est la pédagogie. On veut expliquer vraiment ce que c'est. En fait, moi, ça vient d'un truc un peu... Du romantisme que certains spectateurs ou collectionneurs mettent sur mon métier. Ils sont là, mais vous êtes artiste, tu vois. Mmh. Et en fait, il y a un moment où, moi, je suis un crève-la-dalle et c'est compliqué. Ouais. Et du coup, voilà, il y a vraiment une volonté pédagogique
mais il y en a tout à fait ça. Il y en a en fait un regard. Même des fois, je pense que quand les gens ils pensent que tu dois être dans certaines misères et quand ils ne rencontrent pas exactement cette image, ils sont déçus.
Ouais, complètement. Ouais. Non, mais c'est pareil. D'ailleurs, on pourrait également parler, de l'atelier, parce que tu es photographe, donc en fait, tu n'as pas un atelier, tu as un bureau avec un ordinateur.
Tout à fait. Ouais. Ah oui, voilà, j'ai fait justement une visite atelier à des gens, des collectionneurs, et ils étaient très déçus parce qu'ils voudraient voir,
l'odeur de térébenthine.
Ça, et aussi un mannequin de nous qui est au milieu, quelqu'un de... Non, mais c'est... Voilà,
c'était...
Et ils devaient être sales, et je suis... ils étaient genre, est-ce que c'est... Tu vis ici ou si tu travailles? C'est genre, voilà. Non, mais c'est... Et après, il y en avait une bibliothèque, et c'est genre, les livres m'ont nourri, donc ça fait partie, c'est pas quoi, voilà, donc c'est, ouais, exactement, c'est une vision d'un peu 19e de l'artiste qui est toujours là.
Complètement. Parce que c'est vrai qu'en tant que photographe, t'as besoin d'une connexion internet, d'un écran calibré et
d'une scanner, une machine à photocopie peut-être, t'as pas besoin de...
Tout à fait.
Mais il y a besoin de place par contre.
Ouais, un petit peu de place. Je prends le gilet.
Oui.
Vers quoi ton travail va aller? Quel est le chantier en cours dans ton atelier en ce moment?
Donc là, je fais une thèse de création. Ça, c'est le grand chantier actuel. Mais j'ai aussi réalisé un travail il y a un an qui s'appelle Soleil of Persian Square, qui est sur la diaspora iranienne de Californie du Sud et la musique pop. Voilà, ça c'est le moment que je fais ma paix avec la musique pop iranienne, parce que j'aimais d'autres musiques pop. Donc là, c'est le projet a été exposé à Centre d'art Guinzégal printemps dernier. Et maintenant, il va voyager un petit peu. Donc, je vais suivre ce projet-là. Mais aussi, je dois absolument finir ma thèse de création et croisons les doigts que je le fais bientôt. Et voilà.
La prochaine fois que tu seras présenté, ce sera où?
Ça serait en décembre, le 2 décembre, à Photohof à Salzbourg.
Super. Okay. Et pour finir, est-ce que pour notre fil de l'amitié, est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander? Peut-être qu'on pourrait contacter en ton nom pour l'inviter à la prochaine émission de Sans Titre.
J'ai pensé à la... Je travaille régulièrement avec une graphiste, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai pensé à elle, mais sinon, en fait, elle s'appelle Myriam Barchecha, on a créé une relation assez intéressante pour le travail, parce que elle essaie de comprendre aussi mon travail de point de vue intellectuel, et ça, c'était pour moi très... C'était vraiment intéressant. C'est ça, ou sinon j'ai travaillé avec un musicien récemment pour ce projet de Soleil of Persian Square qui s'appelle, bon, il a un pseudonyme qui est Post California. Et donc, lui, il est aussi quelqu'un d'intéressant parce qu'il est autodidacte. Et il n'est pas très connu, mais il a un label aussi de la musique. Voilà, l'un des deux.
Ok, bah, on échange les contacts.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le travail d'Anna Darabi sur son Instagram. Vous pouvez également suivre le projet Sans Titre sur Instagram avec sanstitre.cast. Merci beaucoup à Photo Saint-Germain et à l'Hôtel Louisiane de nous avoir accueillis pour l'enregistrement aujourd'hui. À la technique, il y avait Nikita. Générique par Olivier Schloberg. Bisous.
Bisous.